France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Frédéric Neuburger. Je suis né à Paris, dans le 13e arrondissement, en 1986. Et je suis pianiste et compositeur.
Deuxième épisode de notre rencontre avec le pianiste aujourd'hui. Il poursuit ses souvenirs d'enfance quand enfance rime avec vacances.
Quand j'allais en vacances avec mes parents ou avec mon père et ma belle-mère Sylvie, on allait en vacances assez régulièrement dans plusieurs endroits, bien sûr. Mais j'avoue que j'ai passé tout mon temps à faire de la musique. C'est-à-dire que il fallait que je compose. Justement, j'utilisais le fait de pas avoir l'école, d'être vraiment en vacances, pour ne faire que composer toute la journée. Et donc, chaque vacances était l'occasion de faire une composition vraiment aboutie, du début à la fin. Ou, si je composais pas, que je lise de la musique, que je fasse un peu d'analyse musicale, par exemple, ce genre de choses. Donc rapidement, la musique a pris le dessus sur mon désir de vacances. Mais je n'en suis pas du tout malheureux ni frustré. C'était vraiment ce que je voulais faire.
Vous avez toujours été très soutenu par vos parents de ce côté-là.
Oui, j'ai eu cette grande chance. Je pourrais jamais les remercier assez. Ma mère, mon père, ma belle-mère, de m'avoir vraiment soutenu dans cette envie que j'avais d'être musicien, de m'avoir fait confiance et aussi de m'avoir beaucoup aidé à rencontrer des personnes qui m'ont vraiment formé.
Et votre mère alors, elle est mélomane aussi, parce que vous nous avez dit que votre père était très mélomane, mais que c'est votre mère qui avait trouvé Émile Naoumoff.
Ma mère, elle n'était pas spécialement mélomane. Aujourd'hui, elle l'est un peu plus, mais parce que moi je suis musicien. Non, mais c'est vraiment mon père qui connaît mieux le répertoire, on va dire assez sérieusement.
Il y avait des disques important à la maison, des choses qui vous ont marqué. Vous nous avez dit que vous alliez pas tellement au concert, mais que par contre, la musique symphonique, musique de chambre, ça c'était quelque chose que vous écoutiez.
J'ai commencé à écouter de la musique classique, effectivement, assez tôt, dès que j'ai eu de l'intérêt pour ça, grâce à la discothèque de mon père, qui comprenait vraiment des œuvres incroyables, enfin qui comprend toujours des œuvres incroyables. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé, parce qu'elle est toujours bien existante, cette discothèque. Et je pense notamment alors au quatuor de Beethoven, au quatuor de Bartok. J'ai écouté assez rapidement les six quatuors de Bartok. Et puis Bach, des enregistrements au clavecin, des enregistrements des passions, des cantates. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne le répertoire général. Ensuite, pour le piano, il y avait bien sûr Beethoven, bien sûr Bach aussi, mais également Chopin par Dino Lipatti. Moi, c'est un de mes idéaux en termes d'interprétation, Dino Lipatti, toujours aujourd'hui. Et puis la musique contemporaine, Stravinsky, oui, bon, c'est pas de la musique contemporaine, mais je pense que pour mon père, ça en était à ce moment-là. Et il y avait Stravinsky, Boulez, Le Marteau sans maître, un certain nombre d'œuvres importantes. Xenakis également. Xenakis, le clavecin, la percussion. Donc quand même, j'ai eu la chance d'écouter assez tôt du répertoire classique très varié. Et je dois dire que moi, ça m'a ouvert les oreilles. Ça m'a ouvert les oreilles sur plein de choses. Mais j'ai toujours eu, et ça je tiens à le dire, énormément d'intérêt pour aussi les autres musiques.
D'accord. C'est-à-dire ?
Le jazz, la chanson, qu'elle soit française ou internationale, les musiques du monde, diverses et variées, le flamenco, la musique soufie, les musiques liturgiques. Je pense à la musique juive, à la musique chrétienne, le chant grégorien, bon nombre je crois vraiment pas, pour mon oreille, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation possible.
Thank you. si on fait le tour un peu de ce premier apprentissage avant le conservatoire, Claude Mayols, Émile Naoumoff, est-ce qu'il y en a d'autres, des professeurs qui ont compté ?
Bien sûr. Et j'ai eu la chance, après avoir commencé à travailler avec Claude Mayols et Émile Naoumoff, de rencontrer un professeur qui a beaucoup compté pour moi et qui compte toujours beaucoup, c'est Jean-François Esser. Donc Jean-François, je l'ai rencontré quand j'avais une douzaine, voilà, presque 13 ans, un peu avant de rentrer au Conservatoire de Paris. Et tout de suite, il m'a pris en leçon et j'ai retrouvé l'ouverture dont je parlais précédemment à propos d'Émile pour vraiment ce que j'apportais. Voilà, il prenait les choses que j'apportais et il m'aidait à les faire mieux dans le sens de ce que je voulais faire. Et avec Jean-François, j'ai pris conscience d'une chose, enfin, en particulier à ce moment-là, c'est l'importance du timbre, l'importance du son. Parce que, bon, avec Claude Mayol, c'était plus la technique quelque part, et puis voilà, un certain bagage. Avec Émile, c'était vraiment la découverte du répertoire, la réduction, les bases de la composition. Et avec Jean-François, c'était le timbre, le son, à savoir que, ben voilà, une idée musicale, aussi belle soit-elle, aussi pertinente soit-elle, si elle n'est pas bien jouée, si le son n'est pas le bon son, le vrai son qu'il faut à cette idée-là, elle va pas passer la rampe, elle va pas toucher l'auditeur. Donc voilà, parfois j'avais l'impression de très bien jouer un morceau et je le montrais à Jean-François et puis il me reprenait sur le son. Il se mettait au piano et puis d'un seul coup il y avait un son différent. Le tempo, l'idée, l'interprétation, c'est bien, mais la nature profonde du son, c'est quelque chose qui peut mettre du temps à se trouver. Il faut déjà en avoir vraiment conscience que le son va tout changer et qu'il faut pas survoler l'interprétation, qu'il faut se demander pour chaque phrase est-ce que c'est ce son-là vraiment. Et après il y a des techniques, chacun a ses techniques pour essayer de le trouver, je dirais. Et ça, il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre. Et d'ailleurs, heureusement, j'ai travaillé avec Jean-François plusieurs années puisque j'étais après son élève au Conservatoire de Paris. Et dans la composition, c'est pareil. C'est on peut avoir une idée, une grande forme, etc. Mais si le discours qu'on veut tenir n'est pas soutenu par un certain son, une certaine identité sonore, qu'elle soit une identité très lumineuse, très aérienne, très pure, ou au contraire, comme on voit par exemple aujourd'hui en musique saturée, une identité un peu grunge, un peu sombre, un peu dans les registres graves, avec de la distorsion, etc. Il faut savoir quels sons on veut donner, j'allais dire, à manger à l'auditeur. Et donc savoir quels sons on veut, c'est un choix énorme déjà. C'est un choix esthétique, c'est un choix très profond. C'est aussi par rapport à qui on est. On ne peut pas dissocier le son que donne à offrir tel compositeur de sa personne. Je pense que voilà, ça serait contradictoire voilà, qu'une personne qui a certains idéaux, certains modes de vie, certaines réflexions générales donne une musique où le son, c'est l'opposé de ça. Je crois que vraiment l'œuvre et donc le son est toujours le reflet de la personne que l'on est, des idéaux que l'on a et de la façon de vivre que l'on veut avoir.
Quand on dit son, il y a le son de l'interprète. Par exemple, Jean-Frédéric, vous jouez un prélude de Debussy, vous allez chercher le son idéal pour ce prélude de Debussy. Mais quand vous composez une pièce pour piano ou une pièce pour orchestre, quelle est la partie de la composition qui fait ce son ?
Vous voulez dire pendant que je compose ou pendant
que... Non, mais
que
je trouve qu'il y a deux choses différentes. Il y a le son de l'interprète qui interprète une page et qui essaye de trouver ce son. Mm-hmm. Mais vous parlez aussi d'autre chose, qui est le son intrinsèque d'une musique.
Oui, oui, tout à fait.
Donc ce sont deux choses différentes.
Ce sont deux choses différentes. Et
C'est vous assez... qui êtes interprète-compositeur.
Oui, oui, mais vous avez raison de soulever ce problème-là. Et ça nous mène à un problème qui, enfin, j'extrapole peut-être un tout petit peu, mais qui est, y a-t-il une vérité en interprétation ? Et alors c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre, parce que je n'ai moi-même pas la réponse, voilà, bien sûr. Mais vous avez parlé de cette notion de la recherche du son pour l'interprète, et j'en ai parlé par rapport à cette chose que m'a transmis, je crois, Jean-François. Et ensuite, du son idéal d'une œuvre, bah, c'est une question, ça je trouve, qui est magnifique. C'est une question justement qui peut permettre à un interprète d'interpréter la même œuvre pendant 40 ans. Puisque il peut tout à fait avoir fait un enregistrement d'une œuvre avec un certain son, une certaine idée esthétique, et puis se rendre compte 20 ans, 30 ans plus tard, que c'était peut-être pas le bon son, voire même peut-être pas le bon tempo. On le voit dans certains enregistrements de grandes œuvres par des grands interprètes à différents moments de leur vie, qui ont réévalué hein, leurs interprétations. Et ensuite, sur cette question du son d'un prélude de Debussy, par exemple, Je crois quand même que ce n'est pas tellement la vie du compositeur qui va nous aider, mais plutôt ses références artistiques, les références artistiques du compositeur que l'on joue. À savoir que, par exemple, Debussy n'a pas du tout les mêmes références artistiques que, par exemple, Ravel ou Dutilleux, pour des raisons de génération. Debussy, c'est un homme qui est né en 1862 et Ravel en 1875. Ça fait 13 ans de différence. Ça paraît peu, mais en fait, c'est beaucoup, je crois, parce que voilà, moi, je vois la différence. Moi qui suis né en 86, et puis les gens qui sont nés 13 ans plus tard, en 99, l'écart générationnel est immense. Ou les gens qui sont nés 13 ans avant, par exemple. Ça paraît peu, et c'est beaucoup. Donc, c'est deux façons d'appréhender la musique, deux philosophies de vivre tout à fait différentes, si on se replonge vraiment dans leur époque, dans leur état d'esprit. Et ça, je pense que ça peut nous indiquer des choses sur comment jouer leur musique.
Et quand on compose, c'est douloureux de se dire qu'on va laisser sa musique qui peut-être sera jouée par quelqu'un qui ne la comprend pas.
Je ne pense pas que c'est douloureux parce que, d'une certaine façon, on n'y peut rien. On laisse quelque chose. C'est effectivement aux autres d'essayer de la comprendre plus ou moins bien. Mais je crois que souvent les choses sont assez claires. Parce que nous avons la chance de pouvoir nous exprimer aujourd'hui sur la musique qu'on écrit, d'indiquer bien des choses. Ça me fait penser à Messiaen, Olivier Messiaen, qui indique tout à fait clairement dans la partition du Quatuor pour la fin du temps, d'une certaine façon, comment jouer sa musique. Il exprime, par exemple, le souhait que les interprètes soient libres quand ils la jouent, que ça soit pas raide, que ça soit pas métronomique, etc., comme parfois on est tenté de le faire pour de la musique contemporaine ou du XXe siècle. Donc il dit bien tout ça, il dit... Comment jouer, il y a une part de pédagogue là-dedans aussi, dans ce qu'il a fait. Et moi, ça ne me dérange pas du tout qu'un auteur laisse des notes comme ça, comme a fait Messiaen, pour dire un peu dans quelle direction doivent être jouées ses œuvres. Après tout, ça peut se faire pour une mise en scène au théâtre, ça peut se faire pour un chorégraphe qui va expliquer voilà, dans quelle intention il a fait telle chose. Je crois qu'il faut être assez précis sur ses intentions.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Frédéric Neuburger.
Vous parlez du son. Ce son, c'est quelque chose qui est extrêmement sensuel. C'est la pulpe du doigt sur la touche. Quel est votre rapport du corps à l'instrument ?
Il y a des pédagogues qui disent que l'instrument d'un instrumentiste professionnel, etc., d'un haut niveau, doit être comme la prolongation de son corps. Mais je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'abolir la distance. Ça peut se faire seulement par la pratique, par l'aisance. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la notion de... Je pense qu'il faut jouer avec l'instrument et pas contre l'instrument, selon l'instrument qu'on a. En l'occurrence, je pense, pour nous, les pianistes, nous avons toujours des instruments différents. Donc, il ne faut pas hésiter à, par exemple, ajuster le tempo, éventuellement, à ajuster les nuances, ce genre de choses. C'est ce rapport à l'instrument, comme une prolongation de soi-même, comme une prolongation de son idée, et puis aussi de d'apprivoiser l'instrument qu'on a en face de soi.
Ce qui est particulier avec, avec un instrument comme le piano, c'est que c'est un instrument qui n'a pas de... On ne peut pas, comme avec un instrument dans lequel on souffle ou dont on toucherait la corde avec un archet, faire naître le son. Le faire venir.
Oui, alors je comprends assez bien ça. C'est souvent ce qu'on dit d'un instrument comme le piano. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quelque part, je pense que le son, c'est l'idée qu'on en a. C'est l'idée qu'on veut transmettre aux gens. C'est, le son, on l'entend dans la tête avant de le faire, idéalement. C'est tout à fait comme quand on compose, où on doit entendre ce qui se passe avant de l'écrire. Et non pas être l'esclave de la feuille.
Et donc, en fait, c'est ce qu'on entend qui induit le geste.
Oui, je pense que ce qu'on entend induit le geste au piano. Et je pense aussi que... Enfin, moi, ça m'est arrivé de constater en concert que quand je voulais vraiment entendre une couleur sur un instrument qui répondait mal, ou pas comme je le pensais, si je me concentrais sur l'idée intérieure du son que j'avais, même si le son réel n'était pas satisfaisant, ça passait la rampe aussi bien que si le son réel avait été satisfaisant. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la transmission de pensée. Si on entend très très bien à l'intérieur de soi la couleur qu'on veut, les gens vont l'entendre aussi, même si l'instrument ne permet qu'une réalisation imparfaite de cette couleur.
Donc il y a une place pour l'imagination.
Je pense qu'il y a toujours une place pour l'imagination, tout à fait. Et c'est un peu ce qu'on pourrait parler de la force de l'intention. Parce que je pense qu'il ne faut pas séparer le son du phrasé. Le son, il est quand même inclus dans une phrase musicale. Mmh. Moi, j'aime beaucoup revenir à cette notion de phrase musicale parce que c'est ce qui fait le lien entre la musique et les autres arts de l'écrit, à savoir la littérature, la poésie, le théâtre, etc. Donc la musique, j'allais dire presque quelle que soit sa direction esthétique, c'est des phrases musicales. Avec donc tout ce que ça implique de ponctuation, de mise en abîme de différents thèmes, caractères, sujets, etc. Et que donc, un interprète confronté à ce texte musical va devoir s'organiser. Organiser le temps, organiser la direction des phrases, le ton, l'intonation des phrases, etc. Et donc, le son, c'est le moyen après. Le moyen évidemment très important. J'en ai parlé, mais qui est au service de la phrase, de l'organisation, du discours, etc., qui va tenir. Donc, si le discours, la phrase est très 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 bien tenue, si le son est dans la tête intérieurement très très bon, ça permet ce phénomène de transmission de pensée pour l'auditeur, quand bien même la réalisation sonore serait imparfaite sur un instrument, par exemple, ou dans un lieu qui ne le permet pas, ou autre, et ça passe quand même la rampe.
Thank you.
on sent qu'il y a quelque chose de très volontaire. C'est quelque chose qui revient souvent, la volonté. Quand j'ai lu, évidemment, pour préparer cette émission des choses, assez souvent, j'avais la volonté ou je voudrais que... une démarche très décidée, en fait, de ce que vous attendez de la musique. Ça vous étonne ?
Non. Alors, d'abord, je voudrais dire que je n'attends rien de la musique. Hein, ça, c'est la première chose. Je n'attends rien. En revanche... comme je suis vraiment passionné depuis très longtemps par la musique, j'ai toujours effectivement la volonté, le désir, l'envie, appelons ça comme on veut, c'est des mots différents mais qui signifient peut-être là un peu la même chose, de découvrir quelle chose différente elle peut faire. Voilà. Et c'est ce qui explique mes changements parfois de direction dans mon travail. C'est-à-dire, quand je vais être plus pianiste ou plus compositeur, selon ce qui m'intéresse de découvrir à tel moment de ma carrière, et même au sein des œuvres que j'ai pu écrire, des directions esthétiques différentes, avec toujours une logique. On a parlé de son, de la lumière, qui revient de façon importante, mais pour des formations, des univers différents. J'ai vraiment le désir d'essayer de découvrir, en tout cas moi, tout ce que je peux faire avec cet art-là. Et donc d'essayer des directions très différentes.
Il y a des moments où vous êtes découragé ?
Comme tout un chacun, oui, il y a des moments où c'est plus difficile. Découragé, j'ai envie de dire oui, presque. C'est toujours ce oui, presque qui est important. Je pense que quand on est découragé, on peut se sentir découragé. Il faut savoir se dire que la solution est encore ailleurs, qu'on n'a pas pris le problème par le bon bout et que la solution est peut-être ailleurs, qu'il fallait repenser le problème depuis le départ.
Cette souplesse-là, c'est vous l'avez ?
Je sais pas, j'espère.
Cahier d'esquisses de Claude Debussy par Jacques Rouvier pour refermer le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Jean-Frédéric Neuburger. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Christophe Michou, mixage Julie Garraud, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.